France Culture, 6h-7h, les petits matins, tout de suite les titres de l'actualité, Clara Lecoq-Réal.
Bonjour à tous. Juan Guaido, le chef de file de l'opposition au Venezuela et président autoproclamé du pays, Juan Guaido a été privé hier du droit d'exercer le moindre mandat public pendant 15 ans. Le contrôleur général du Venezuela l'a annoncé, arguant d'incohérence dans les déclarations financières de Juan Guaido. Ses dépenses ne correspondraient pas au niveau de ses revenus. Il est également révoqué de son poste de président du Parlement. L'opposant appelle à de nouvelles manifestations demain contre le régime de Nicolas Maduro. L'Allemagne prolonge de 6 mois le gel des ventes d'armes à l'Arabie Saoudite. Elle ne lui vendra pas, au moins jusqu'au 30 septembre prochain, estimant que ces armes ne doivent pas être utilisées dans la guerre au Yémen. Ses partenaires européens, la France et le Royaume-Uni surtout, faisaient pression jusque-là pour une levée de ce moratoire. C'est a priori le vote de la dernière chance aujourd'hui au Parlement britannique. Theresa May soumet pour la 3e fois l'accord de divorce qu'elle a négocié avec l'Union européenne. Arithmétiquement, la première ministre n'a pas encore la majorité. Elle avait avant-hier mis son poste dans la balance pour faire voter ce texte. Notez que nous sommes ce vendredi le 29 mars, date initialement prévue pour le Brexit. L'actualité en France maintenant est sans surprise. Au lendemain de sa démission du gouvernement, Benjamin Griveaux a confirmé hier sa candidature à la mairie de Paris pour les municipales de l'année prochaine. Faut-il encore qu'il soit désigné par La République En Marche, car les prétendants sont nombreux, notamment le désormais ancien secrétaire d'État chargé du numérique Mounir Majoubi qui, lui aussi, avait démissionné. Et puis, il est mis en examen pour menaces de mort et harcèlement moral. L'humoriste Yacine Bellatar n'intervient plus sur la radio Nova. L'animateur radio, devenu également polémiste et voix des banlieues auprès de l'Élysée, est soupçonné d'avoir franchi les limites dans son conflit avec un ancien auteur des Guignols de l'Info, Bruno Gassiot, ainsi que 5 autres acteurs du monde artistique.
Parlons culture, autrement, l'anachronique culturelle. Mathilde Serrel.
Et si nous faisions un voyage dans le temps ? Posons notre vaisseau spatial à l'inauguration de la fresque du Jugement dernier, devant le chantier des colonnes de Buren ou à la première du Sacre du Printemps. L'anachronique culturelle vous propose de revivre ces grands événements de la culture comme si c'était hier, pour comprendre ce qu'ils disent de l'époque, mais aussi de notre présent.
L'anachronique culturelle, Mathilde Serrel, en podcast et en podcast seulement sur franceculture.fr.
Il est 6h03, vous écoutez France Culture et nous retrouvons Toufik Hakem pour parler bande dessinée ce vendredi.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour tout le monde, voilà 10 ans qu'on attendait la suite du Retour à la Terre, la série de bande dessinée de Manuel Arsenet et Jean-Yves Ferry. Et ça y est, le tome 6 vient de sortir, il a pour titre Les Métamorphoses, édité chez Dargaud, et c'est toujours aussi bien. Le Réveil Culturel, c'est tous les jours à la radio pour les lève-tôt, de 6h à 6h30, ou quand vous voulez, en passant par l'abonnement au podcast et l'écoute en ligne. Par exemple, Jean-Yves Ferry, mon invité, il est bien sûr abonné au podcast du Réveil Culturel.
Absolument, absolument.
Cette émission a été préparée par Corinne Amar, à la prise de son Marie Le Peintre, à la réalisation Rafik Zénine.
Le réveil culturel. Vendredi, bande dessinée.
Le retour du retour à la Terre, le tome 6 enfin, après 10 ans d'absence, je le disais. Alors, il faut quand même expliquer l'histoire de cette série. Au début du millénaire, Manuel Arsenet décide de quitter Paname, la jungle de béton, la ville de tous les tourments, pour aller vivre à la campagne avec sa femme, son chat et ses crayons. Le tome 1 de Retour à la Terre, La vraie vie, est paru en 2002. Et depuis, on est en train de suivre, avec le décalage humoristique de Jean-Yves Ferry et le trait de Manuel Arsenet, comment on peut vivre à la campagne de nos jours. La famille s'élargit, une petite fille est née dans le couple de Manuel Arsenet dans le tome 3. Et dans le tout dernier, Les Métamorphoses, il y a un deuxième enfant qui s'annonce. Tout cela est bien sûr vrai. Hein,
parce que presque.
Jean-Yves Ferry.
Ce qui est vrai, c'est que le petit garçon de Manuel Arsenet, le vrai, s'étonnait de pas se trouver dans le Retour à la Terre. Il disait toujours, ma sœur est née dans la série,
et moi,
est-ce que j'arrive ? Et alors j'ai voulu quand même qu'il finisse par arriver dans ce tome 6.
Bon, alors comment est née cette idée du retour à la Terre, Jean-Yves Ferry, pour une fois qu'on a l'occasion d'interviewer le scénariste,
un des plus grands scénaristes
de la bande dessinée française.
Celui qui fait tout le travail, d'ailleurs.
C'est
né parce que notre ami Larsenet Levray, oui, je distingue Levray de celui de l'album, est parti vivre à la campagne, pour de vrai. Et ça remonte aux années 2000, effectivement. Et j'ai reçu, à l'époque, parce qu'on était déjà collègues dans le magazine Fluide Glacial, j'ai reçu une liste de coordonnées, parce qu'il avait très peur d'être perdu de vue par ses amis, en fait. Donc il y avait mail, téléphone, fax à l'époque, adresse postale, tout ça. Donc ça m'a fait rire, sur le coup, nerveusement. Et je me suis dit, ce gars-là ne tiendra jamais 3 jours à la campagne. Et je lui ai envoyé à l'époque un petit dessin, c'est le représentant avec un ordinateur sur l'épaule en pleine forêt. Et Larsenet, toujours très prompt à réagir, m'a dit, mais tu sais que c'est rigolo ça, est-ce que tu te sentirais de raconter les aventures de ce gars-là à la campagne, de ce nouveau citadin qui arrive? Et c'est ce que j'ai fait. Bon, alors depuis, je lui ai mis sur le dos tout un tas d'aventures.
Voilà, avec le même principe, c'est-à-dire des petites histoires qui prennent une demi-page d'un album.
Voilà, c'est ce qu'on appelle des doubles strips, pour ne pas confondre avec le double salto.
Ouais.
Et c'est-à-dire 6 cases, en gros, c'est le principe. Et c'est un format qui, moi, me sied. Parce que ça permet d'aller un peu au-delà du gag, de raconter, de mettre une situation en route, et de jouer surtout sur les fameuses ellipses entre 2 strips, et donc de raconter comme ça de manière assez légère, on va dire, une histoire qui est plus longue.
Quand cette série est née, Jean-Yves Ferry, quand vous avez décidé avec Manu Larsenet de vous lancer dans cette série, Le Retour à la Terre. Déjà à l'époque, c'était très drôle et très rafraîchissant, parce que on se souvient qu'à l'époque, la mode dans la bande dessinée, c'était l'autofiction. Tout le monde racontait sa petite histoire. Là, vous faites la même chose, mais avec ce décalage qui est très drôle. Manu Larsenet devient Manu Larsenet. On sait que tout cela est vrai, mais que tout cela a été revu. Corrigé par vous,
oui,
par vous d'abord, parce que c'est vous qui écrivez les histoires.
Ben voilà, souvent on m'a dit, mais Ferry, qu'est-ce que tu fais dans cette affaire, puisque c'est la biographie de Larsenet. Et à chaque fois, c'est un peu difficile à expliquer et à dire, tout est vrai, mais tout est faux. C'est-à-dire que le principe, c'est que de la règle du jeu, c'est qu'un peu qu'il se dessine comme un acteur finalement. Il dessine son double Larsenet, mais tout est un peu imaginaire. Bon, il a jamais rencontré sa jeu. C'est un scoop, mais il a jamais rencontré d'ermite tout nu sur un arbre. Madame Mortemont
n'existe pas. La vieille avec ses smartphones n'existe pas.
Elle existe. C'est moi qui la connais, en fait.
D'accord.
Et après Monsieur Henri, pareil. Par contre, le vrai Larsenet a rencontré le maire du village chez lui. Il a connu quelques mésaventures que je lui avais plaquées.
Et l'épicier, qui est un très bon voyant, qui aurait pu être un très bon voyant s'il n'était pas atteint d'Alzheimer, c'est un vrai personnage ou c'est un personnage de votre imagination, Jean-Yves Ferry?
Non, c'est pas l'épicier de Larsenet, ça je confirme. En fait, je raconte toujours que j'avais une petite vie avant Larsenet, c'est-à-dire la vie du dessinateur perdu dans la campagne, c'est un petit peu ma vie à moi.
Pourquoi? Parce que vous-même, vous avez vécu à la campagne? Vous êtes campagnard, Jean-Yves?
Ouais, je suis campagnard, c'est ma vie. Hein. Donc, quand je l'ai...
Vous venez d'où?
Moi, je suis dans les Pyrénées, vraiment profondes. Et donc, l'idée, c'était que je mette Larsenet au courant de ce qui allait lui arriver, quoi, tout simplement. Et donc, tout est faux, mais certaines choses ont recoupé la réalité. Bon... Il a vraiment donc eu affaire au maire, il a eu des propositions d'affiches pour la fête du cochon, il a rencontré... Et puis il a eu par exemple un bébé comme dans la série, même le 2. Mmh. Voilà. Là-dessus j'y suis pour rien, mais c'est... Enfin je veux dire, dans la réalité, c'est compliqué.
Et tout ça est très drôle, mais comment cette bande dessinée se fait? Parce que vous envoyez les histoires concernant Manu Larsenet pour que Manu Larsenet les dessine, pour rendre les choses encore plus agréables et plus douteuses, pour nous faire voyager de mise en abîme en mise en abîme. Des fois, c'est vous-même qui intervenez dans ces histoires en tant qu'auteur du Retour à la Terre.
Oui, pour ça, il faut expliquer que dans le Retour à la Terre, Manu Larsenet dessine le Retour à la Terre. Donc, Manu Larsenet a déjà du mal un peu à s'y retrouver dans l'album, Mais c'est encore plus rigolo parce que le vrai Manu aussi, il a du mal à suivre un petit peu. Vous voyez ce que je veux dire?
Non, ça veut dire quoi? C'est des coups de téléphone à minuit en disant, mais qu'est-ce que vous avez inventé pour raconter mon vécu, mon histoire? Ça doit pas être évident, vos échanges.
Bah, on est un petit peu quand même, on va dire, des vieux collègues, donc on rit un peu des mêmes choses. Donc, le principe depuis le début, c'est que je lui envoie des storyboards, des sortes de petites esquisses de chaque strip.
C'est vrai, parce que vous n'êtes pas seulement scénariste, il vous arrive aussi de dessiner.
Et là, l'Arsenet, qui est un excellent acteur, je le précise, me fait une sorte de lecture sonore, qui marcherait bien d'ailleurs à la radio, de chaque strip. À ce moment-là, on rit comme des bossus, parce que c'est toujours plus marrant jouer. Et ça peut me donner envie de développer telle ou telle situation. Des fois, je lui dis, attends, ne dessine pas ça, je vais t'en faire un autre. Et puis...
Et ça passe par téléphone, par internet, par mail?
Par téléphone, en fait.
Ouais. Vous parlez souvent?
Est-ce
que vous allez lui rendre visite, comme dans la bande dessinée, assez souvent?
Non, je suis interdit de séjour. Là.
Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé?
Non, en fait, je rigole. Non, on s'était vu, évidemment, mais finalement, on se connaît bien sur le mode téléphonique, parce qu'on s'est toujours tenu au courant de nos bouquins. On s'envoie toujours des planches, des dessins, on discute...
Alors, j'ai pas envie de dévoiler tout ce qu'il y a dans les Métamorphoses, le sixième tome du Retour à la Terre qui vient de sortir chez Dargaud, Jean-Yves Ferry, mais disons que, on apprend que les smartphones sont très, très utilisés, même à la campagne. On comprend pas toutes les fonctionnalités du smartphone, mais ça, même les gens qui vivent en ville peuvent avoir ce genre d'a priori avec les nouvelles technologies. Manu Larsonnet attend un enfant. Le deuxième enfant fait enfin son entrée dans le Retour à la Terre, mais il y a autre chose. Jean-Yves Ferry, c'est que Manu Larsonnet, il a l'impression, et les lecteurs seront sans doute d'accord avec lui en lisant ses dernières aventures du Retour à la Terre, que la vraie star maintenant, ce n'est pas lui, mais c'est vous.
Oh, vous me gênez.
Entre-temps, vous avez été désigné comme le scénariste d'Astérix.
Ouais, alors ça, c'était rigolo parce que dans le Retour à la Terre, Ferry, qui est moi, d'ailleurs, moi, j'ai le même nom que dans la réalité, alors que Larsonnet, non.
Ouais.
Ça, je me suis permis, en tant que scénariste, de faire ce que je voulais, hein, après tout.
Ah, passe droit.
Bon. Et donc Ferry, dans le Retour à la Terre, est le scénariste du Retour à la Terre. Et donc, des fois, il arrive qu'il fasse un petit séjour chez Manu, et qu'il aille travailler à la cave, par exemple, chez Manu. Et disons que c'est un petit peu ça, la mise en abîme, c'est-à-dire que dans le Retour à la Terre, Ferry est censé assurer donc le scénario. Et là, il se trouve que Ferry
est
pris sur Astérix, ce qui plonge un peu le Manu dans le désarroi, parce qu'il se dit, Ferry sur Astérix, après tout, il n'a pas le droit, quoi. Hein, il faut qu'il se consacre au Retour à la Terre.
Et mais comme Astérix, ça paye genre 1000 fois plus que le Retour à la Terre, au moins.
Astérix, ça paye plus. Et puis en plus, il se trouve que j'étais en plein dans Astérix pour de vrai. Donc, je pouvais pas m'en occuper du Retour à la Terre. Et là, dans l'album, il y a quelques petites allusions à ça. Et finalement, c'est parce que Ferry...
Et vous jouez avec les nerfs des lecteurs. Hein. Les lecteurs les plus avertis, c'est la question qui se pose. Est-ce que le fait que Jean-Yves Ferry soit devenu un scénariste très riche, puisqu'il travaille maintenant pour Astérix, est-ce que cette richesse, est-ce que cette renommée va influer sur son amitié avec Manu Larsonnet?
Je pense pas. Bon, déjà, bon... Riche, bon, écoutez, c'est pas tant
tout
que
est
ça.
Relatif, tout est relatif.
C'est relatif. Bon. Et
mais c'est quand même Astérix. Hein.
Après, c'est Astérix, donc
2 millions d'exemplaires.
Voilà, hein. Ce qui est particulier donc, quand vous faites Astérix, c'est le tirage en fait, qui est un peu hors norme. Mais pour rien vous cacher, j'ai beaucoup plus de facilité à écrire du Retour à la Terre.
Pourquoi? Parce que vous n'avez pas la pression de.
Ben parce que
d'un Uderzo ou d'un autre Panoramix de l'édition.
Ben on a. C'est pas tellement que j'ai de la pression, c'est la difficulté à écrire un Astérix qui se tienne, qui reste un petit peu dans le respect de la cohérence de Astérix. Alors que sur le Retour à la Terre, c'est une sorte de récréation qu'on se permet avec Larsonnet. Pour Larsonnet, c'est même des vacances, j'en profite au passage pour le dire, qu'il pousse un peu parce que il fait que dessiner, donc c'est pas... Donc, et donc par rapport à Astérix, c'est une petite période qu'on aime tous les deux, où on retrouve ces personnages qu'on aime bien, qui ont commencé à exister tout seuls. Et d'ailleurs, pour reprendre un Retour à la Terre, j'attends que d'avoir en quelque sorte des nouvelles de ces personnages. Je me dis, tiens, qu'est devenue Madame Mortemont? Est-ce que Monsieur Henri va bien? Est-ce qu'il s'est cassé le col du fémur ou pas? Et c'est comme ça que naissent la suite des aventures.
Nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis. J'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant. Pour trois fois rien à crédit sur deux ans. C'est au cœur du Larzac, au bord d'une rivière, dans un joli lieu dit appelé le désert. Un manoir du 16e dans un parc de 1000 hectares. Il y aura juste quelques travaux à prévoir. Pour l'arrivée d'eau, le vieux puits fera l'affaire. Pour l'électricité, vive les panneaux solaires. S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales. S'il fait nuit plus d'une heure, c'est toi qui pédales. Le premier spot wifi est à 25 km. Le premier monop est à 35 km, le premier iPhone est à 120 km, la dernière poste à fermer, elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier lapin, elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier pingouin. Bien avec nos clapiers à lapin, les toilettes à compost, l'eau de pluie pour le bain. Si nos amis nous voyaient, ils n'en reviendraient pas. D'ailleurs, s'ils venaient, ils n'en reviendraient pas. Tout ce qui pousse ici est un vrai don de Dieu. Les ronces, les orties, les champignons vénéneux. On s'est même installé une petite distillerie. L'agneau de châtaigne, ça vaut tous les smoothies. Le premier voisin est à 25 km. Le premier village est à 35 km. Le premier magasin bio est à 120 km. La seule maternité à fermer, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier dauphin, elle est pas belle. La vie pour le dernier des hippies, la main dans la main avec le dernier oursin.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Alors c'est vrai qu'il a accompli le retour à la Terre, Manu Larsenet, mais pas pour vivre comme un hippie, ça on peut le dire, Jean-Yves Ferry.
Non, c'est pas le style.
Non.
Non.
D'ailleurs, pourquoi il a fait ce choix?
Ouais, je crois que ça doit être encore une histoire de femme, ça. Hein, on ne va pas rentrer là-dedans.
Est-ce que le dessin a évolué entre le premier retour à la Terre en 2002 jusqu'au dernier, les métamorphoses, qu'on a attendu 10 ans hein, pour le 6
Il évolue tout le temps et d'ailleurs je retiens un petit peu Larsenet par le fond du froc, je dirais, parce que il aurait tendance graphiquement à bouger beaucoup plus. Or, je suis partisan pour Larsenet et pour tous ces personnages d'un traitement un peu classique. C'est-à-dire un petit peu, vous savez, comme le héros classique qui bouge pas, qui n'évolue pas graphiquement. Comme dans la BD très classique, je lui ai dit, ça serait bien que Larsenet reste Larsenet, quoi, tout le temps. Visuellement. Et ça a été un peu notre règle. Or, sur le dernier, on pourra noter une petite évolution, tout simplement parce qu'entre-temps, Larsenet a adopté une autre technique. Il est passé à la tablette, il a laissé les crayons.
C'est fini. L'adieu au papier, c'est fini.
L'adieu au papier.
Ça s'est terminé par une très belle exposition, d'ailleurs, à
ouais,
Paris.
Ouais. Et donc, ça fournit, disons, un style un petit peu différent, notamment sur les décors, des éléments un peu plus travaillés, plus sombres aussi. Il y a des...
Et ça, c'est le travail de Manu Larsenet ou c'est aussi vos suggestions, vos discussions?
Bon, ben moi, sur les strips, il y a une vague indication, par exemple, sur un buisson qui est derrière. Mais après, Larsenet le traite à sa manière graphique. Et il l'a traité donc avec sa tablette et c'est un petit peu plus fouillé, un petit peu plus proche d'un style plus réaliste, pour certains éléments en tout cas. Ce qui va pas mal parce que le ton de l'album a aussi évolué. Et on est dans un ton un poil plus sombre. Le monde, on le sait, change. Hein,
ça... Bah oui, puisqu'il y a les migrants qui interviennent dans ce sixième tome. Il y a les zadistes.
Les zadistes.
Et puis il y a la violence policière, on peut le dire, ouais. Même si c'est dans une situation très très drôle dans le retour à la Terre 6.
Oui, voilà. Les Ravenel, c'est peut-être un petit paradis, en tout cas pour la petite famille. Mais tout autour, on sent que les choses se sont tendues. Et le trait de Manu, ça fonctionnait bien pour celui-ci parce que ça marquait un changement, une évolution.
Voilà. Alors justement, à propos de l'évolution du trait, Manu Larsonnet, que j'ai rencontré en juin à l'occasion de cette exposition à Dieu au papier, où il avait décidé, d'exposer, de vendre toutes ses planches pour pouvoir passer à l'âge numérique, j'ai eu parlé de ce qui l'animait en envie de progrès technique et de changement. Il vous cite et il nous dit ceci.
Avec Ferry, mon ami Jean-Yves Ferry, qui est donc dessinateur et aussi scénariste, on avait établi la théorie des quatre traits. C'était en regardant Sampé. Sampé est capable, avec quatre traits, de faire un personnage que lui seul est capable de faire et qui en plus est capable de lui donner une expression, presque un vécu. Presque en voyant les quatre traits de Sampé, on peut s'imaginer tout ce qui va autour. Donc j'étais très très branché là-dessus. Et donc on essayait avec Ferry d'aller vers les purs. Et autant lui y arrive, autant moi je me rends compte que j'y arriverai jamais. Je suis pas assez observateur, j'ai pas l'œil qu'il faut pour aller vers les purs.
Non mais déjà pourquoi cette obsession? Moi j'aime bien une planche où il y a plein de détails, plein de décors, où on peut se perdre. Mais pourquoi ça devient une obsession, mais très particulièrement chez les dessinateurs de votre génération?
Parce que rapidement, ça devient un système en fait. D'en mettre plein, de mettre des tonnes, d'en faire des caisses, de faire le plus joli, le plus grand, le plus ceci, le plus cela. Non. Les plus intéressants, c'est pas ceux qui font les vaisseaux spatiaux les plus beaux, c'est Sampé. Donc on veut tous aller vers ça. Enfin tous, pas tous peut-être d'ailleurs, je dis les gens que moi j'ai connus, on voulait tous aller vers une simplification pour pouvoir en dire plus justement. Sampé, il en dit plus avec moins de traits, alors que nous en bande dessinée, on est toujours tenté de faire notre cinéma, de faire des prises de vue incroyables, des noirs, des ceci, bla 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 bla. Et Sampé lui il se met à sa table, il fait pas un crayonné, il prend juste une plume et de l'encre et il crée un monde. Et voilà, ça c'est un objectif pour un dessinateur. Si ça c'est pas l'objectif, au moins un moment pour se défaire des scories de « je me la pète ». Il y a une légende qui court comme quoi Moebius faisait toujours une planche ou deux par livre pour rendre jaloux les collègues tellement c'était impressionnant et tout. Et c'est vrai qu'avec l'âge, c'est plus un truc qui me tente. C'est plus ces cases-là chez Giraud ou Moebius qui m'intéressent. C'est justement celle où il y a beaucoup moins de moyens, mais c'est beaucoup plus direct. On n'est plus dans les pattes, on n'est plus dans « je vais vous montrer ce que je sais faire », on est dans « je raconte un truc et je ne pense qu'à raconter le plus simplement possible ».
Voilà, et il y arrive d'ailleurs avec le retour à la Terre, Manu Larsonnet, s'il nous écoute, et qu'il soit salué par toute l'équipe du Réveil culturel. Mmh. Il y arrive, alors il c'est quoi cette théorie de Sampé?
Lui, il appelle ça la théorie du 4 traits, moi je dirais la théorie du 3 traits même. C'est encore pire. Ben oui, quand vous dessinez un tracteur, que vous vous mettez à dessiner les ressorts, les boulons et tout ça, ben le lecteur il cherche s'il manque un boulon ou s'il manque un ressort, mais c'est pas le but. Et donc quand vous dessinez un tracteur en trois traits, ben le lecteur il a compris que c'était un tracteur et il passe à autre chose de plus intéressant. Qu'est-ce que le gars me raconte? Qu'est-ce qu'il dit? Vous devenez d'un seul coup plus sensible et vous dites des choses essentielles justement. Et voilà, on est sur cette ligne avec Larsonnet. Le retour à la Terre a permis ça parce que c'est du strip. Je me souviens que quand j'ai envoyé les premiers storyboards à Larsonnet sur le tome 1, comme je présente mes storyboards de façon très minimale, justement, il m'a dit, ben moi, dans le dessin, je vais rester sur ça. Je vais essayer d'en faire le moins possible. D'où d'ailleurs le décor sous forme de quelques cartons, on voit jamais un angle de pièce. On voit jamais le village, on voit jamais la maison, on voit jamais de route, on voit jamais une voiture dans le retour à la Terre. Et pourtant, on parle, on raconte une histoire.
Il y a aussi toute cette partie très très intimiste concernant le rapport qu'entretient Manu Larsonnet avec son père, ou la mémoire de son père, ou l'absence de son père.
Alors là,
comment on traite d'une chose aussi grave dans un album qui se veut d'abord un album humoristique, hein, parce que c'est ça l'objet du Retour à la Terre, Jean-Yves Ferry.
Alors j'ai jamais demandé à Manu de me raconter l'histoire de sa relation à son père. Je me suis donc servi de ma propre histoire. Par contre, j'avais déjà.
Ah, c'est votre propre histoire que vous attribuez.
C'est plutôt le. Oui.
Ah, bienvenue, Larsonnet.
Là, sur ce coup-là, Larsonnet, je pense qu'il n'a pas vécu la même chose. Mais simplement, comme dans le retour à la Terre, il fallait trouver une façon d'expliquer sa peur de la paternité, Je me suis dit, bon, le père de Manu, il est parti entre ses deux enfants de manière inexplicable. Donc ça l'a traumatisé, et lui-même, maintenant, l'arciné, quand il attend un deuxième enfant, il a peur. Je me suis dit, c'est une explication comme une autre. Mais encore fallait-il montrer un peu mieux ce père, donc je me suis dit, qu'est-ce que je fais avec le père de Manu? C'était une piste que j'avais pour cet album. Et les premières idées, c'était que j'avais l'idée de le faire arriver pour de vrai. Un type en chair et en os qui se serait avéré être un imposteur. Je me disais, ça sera marrant, tout ça. Et j'ai scénarisé quelques strips dans ce style. Et à l'arrivée, je me suis dit, non, ça alourdit l'album, ce Gus, cet imposteur, c'est pas bon. Et d'un seul coup, je me dis, non, là, le père d'Arsenet est mort. Pouf. Ce qui était le cas de mon père. Et du coup, c'est très commode parce que j'en ai fait un ectoplasme, quoi. Hein. Ce qui est très pratique dans le système Retour à la Terre, parce que il peut à tout moment aller lui parler, on peut le retrouver au détour d'un carton.
Ouais, le carton joue un rôle très important dans ce sixième tome.
Mais c'est pas très lourd, ça. Et du coup, ça m'a décoincé sur le thème du père et j'ai pu faire quelques pages sur le sujet.
Et pour revenir à l'essentiel, parce que je pense que l'idée de départ en 2002, c'était un peu un défi, vous le disiez, Jean-Yves Ferry, oui. Est-ce que Manu Larsenet va tenir le coup? Oui. Alors non seulement il tient le coup, mais ce qui est drôle, et très drôle dans ce Retour à la Terre sixième tome, c'est que par ailleurs, il ne s'est pas intégré à la vie, à la campagne.
Non, c'est presque pire en fait.
Ouais, c'est pire.
C'est pire, par exemple...
Il a peur des villageois, Il a
pas toujours aussi peur de Madame Mortemont, qui est pourtant adorable.
Hein. Oui, ça se discute. Hein.
Non, mais disons que Madame Mortemont a de très bons rapports avec Mariette, avec la petite Capucine, avec tout le monde. Mais pour Manu, elle symbolise un peu toutes ses frayeurs. Je crois qu'il n'y a rien à faire, c'est incurable.
Pourquoi il vous a fallu 10 ans pour faire ce sixième tome? Il n'y avait pas d'autres histoires entre-temps? Ou vous étiez très très occupé, Jean-Yves Ferry?
Alors on a été tous les deux occupés de notre côté, disons que...
Ceci dit, c'est vrai, il est en train de faire Blast.
Blast.
Ouais, mais Blast, donc. Voilà. Dans la fiction, Blast.
Il a fait Blast. Ce qui, d'ailleurs, lui a donné cette inspiration un peu sombre qu'on retrouve dans le dessin. Et moi, j'ai fait aussi autre chose. Et puis... Tout au long de ces années, il est arrivé qu'on se dise « Allez, on reprend le Retour à la Terre. Allez. » Je me souviens même d'un moment où on a commencé des pages et tout. Et puis, c'était un peu artificiel. Je me disais « Non. » Là, Madame Mortemont, je sais pas. On le fait pour le faire, c'est pas bon. Et puis, l'histoire du père que je vous racontais a servi de déclic. J'ai pu tirer mon récit comme ça. Et tout a commencé à s'enchaîner et à devenir facile.
C'est-à-dire qu'il faut attendre qu'il y ait un déclic pour espérer un septième Retour à la Terre?
Il faut attendre que ça soit une sorte d'évidence.
Bon. Je suppose qu'on n'a pas le droit de vous poser des questions sur Astérix, sur le prochain Astérix. Vous avez sans doute signé des documents.
Je peux dire quand même que ça va finir par un banquet.
Très sérieusement, vous signez des documents pour vous engager à ne absolument rien dire sur l'histoire en cours?
Non, quand même pas, mais disons que bon, je respecte c'est un peu James Bond, hein. On dit rien de rien.
Bon, merci d'être passé, Jean-Yves Ferry. Merci, le Retour à la Terre, merci. C'est édité chez Dargaud. Le sixième tome, enfin, on l'a attendu 10 ans, il est là. Les Métamorphoses, ça s'appelle. Bonne matinée sur France Culture, on se retrouve lundi.
Vous êtes sur France Culture. Dans un instant, les informations de 6h30. À suivre, le journal des idées par Jacques Munier et les enjeux internationaux par Xavier Martinet.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Chaque vendredi dès 18h20, le rendez-vous du Bel Air. Hervé Gardette, Arnaud Laporte.
Tiens Hervé Gardette.
Mon Dieu, mais c'est vous Arnaud Laporte?
Vous m'avez reconnu, je n'ai pas changé. Et une chose qui ne change pas, c'est qu'on donne rendez-vous à nos auditrices et auditeurs au Bel Air tous les vendredis. Pourquoi?
Alors, 18h20, c'est le Club des Idées.
19h, la dispute cinéma ou série.
Tous les vendredis, donc au Bel Air.
Les experts.
Le rendez-vous du Bel Air, en direct, en public, du bar de la Maison de la Radio. Tous les vendredis à 18h20 et sur franceculture.fr.
Étudiant, fan de cinéma.
Allez, moteur !
Testez votre sens critique en devenant juré du prix France Culture Cinéma des étudiants.
Visionnez chez vous 5 films présélectionnés et soutenus par France Culture cette année.
Et décernez le prix à votre lauréat lors du prochain Festival de Cannes. Monster ! Pour candidater, rien de plus simple.
Envoyez-nous une critique du film de votre choix à comfranceculture@radiofrance.com et une copie de votre carte étudiante.
Allons-y !
Attention, vous avez jusqu'au 31 mars pour candidater.
Plus d'infos sur franceculture.fr.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. C'est la troisième et dernière chance pour Theresa May aujourd'hui pour faire adopter son texte négocié sur le Brexit. Le Parlement britannique vote et les anti-Brexit se disent terrifiés, vous les entendrez. Nous reviendrons aussi dans ce journal sur la soirée de Benjamin Griveaux hier. Après avoir démissionné de son poste de porte-parole du gouvernement, il s'est officiellement déclaré candidat à l'investiture pour la mairie de Paris. Et puis un témoignage à suivre, celui d'une jeune femme homosexuelle, longtemps catholique pratiquante. Elle demande aujourd'hui à l'Église de la débaptiser. Le gouvernement britannique soumet aujourd'hui aux députés et pour la troisième fois le traité sur le Brexit, traité négocié avec Bruxelles par Theresa May, un texte déjà rejeté à deux reprises. Cette fois, la Première ministre promet de démissionner si les députés valident cet accord, mais les voix lui manquent encore ce matin. En attendant le vote, notre envoyée spéciale Louise Baudet a rencontré des Remainers, ces Britanniques qui veulent rester dans l'Union européenne.
Début de soirée dans le quartier de St. James Park, l'heure d'une pint entre collègues au pub du coin. Bière européenne venue d'Italie, précise Sonia, la cinquantaine.
Je suis terrifiée par le no deal. Ce serait un désastre absolu. Je suis européenne, je me sens européenne. Je suis allée à la marche du 23 mars et j'ai signé la pétition qui réclame l'annulation du Brexit.
1 million de manifestants, 6 millions de signataires et de multiples mouvements citoyens comme Best for Britain, dirigé par Héloïse Todd.
Les gens en France doivent se dire en nous regardant,
mon Dieu,
qu'est-ce qui se passe? C'est un gros bazar. Et ils ont raison, avec Theresa May qui essaie encore et encore d'obtenir l'accord du Parlement avec pour seul argument, si vous ne me suivez pas, ce sera Armageddon. Ce n'est pas une façon de conduire le pays. Il est temps de faire appel au peuple et de le laisser avoir le dernier mot.
Un référendum pour sortir du chaos, idée rejetée comme les autres lors des votes indicatifs avant-hier au Parlement, mais il s'en est fallu de peu, remarque Thomas Cole, porte-parole de People's Vote.
L'option qui a le plus de soutien, c'est la nôtre. Il y aura d'autres votes indicatifs lundi, alors oui, on doit être optimiste.
Optimiste, le camp du Remain et surtout l'œil rivé à l'horloge. Le 13 avril, il sera trop tard.
Une nouvelle journée de contestation populaire en Algérie. Les manifestants devraient demander la fin du système Bouteflika et pas seulement son éviction. Cette semaine, les principaux partis politiques et l'armée ont plaidé pour que le président Abdelaziz Bouteflika, affaibli depuis un AVC en 2013, où ils vont demander qu'Abdelaziz Bouteflika soit écarté. Le Conseil constitutionnel algérien n'a pas encore débattu d'une éventuelle procédure en ce sens. Dans l'actualité également ce matin, cette réaction venue des États-Unis. Washington juge une décision ridicule, la décision du pouvoir vénézuélien qui a déclaré hier inéligible pour 15 ans l'opposant Juan Guaido. Selon les autorités, il n'aurait pas justifié dans ses déclarations de patrimoine certaines dépenses réalisées au Venezuela et à l'étranger. Décision qui a fait une nouvelle fois monter la tension dans le pays. Après avoir quitté le gouvernement, l'ancien porte-parole Benjamin Griveaux a fait officiellement hier acte de candidature pour les municipales à Paris. Elles auront lieu l'année prochaine. Il est candidat, plus exactement, à l'investiture de son parti La République En Marche. En attendant donc son investiture ou non, voici un candidat de plus qui s'est déclaré pour les municipales à Paris, Stéphane Robert.
Benjamin Griveaux a officialisé hier soir ce pourquoi il a quitté le gouvernement, il y a 2 jours.
Oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris.
Benjamin Griveaux, candidat pour les élections municipales à Paris l'année prochaine, il y a quelque chose d'anachronique, étant donné qu'on est encore à peine entré en campagne pour les européennes. Mais il était pressé, l'ex-porte-parole du gouvernement, parce que c'est maintenant que ça se prépare, parce que certains sont déjà partis en campagne, notamment l'un de ses rivaux, le mathématicien Cédric Villani, parce qu'il faut faire ses preuves face aux autres potentiels candidats, comme Mounir Majoubi, qui lui aussi a quitté le gouvernement pour les mêmes raisons. Pour autant, Benjamin Griveaux assure qu'il n'y aura pas entre marcheurs de bataille pour l'investiture.
Vous organisez une lutte fratricide qui n'existe pas.
Car ce serait offrir un spectacle délétère aux Parisiens.
Qu'ils ne comptent pas sur nous pour reproduire les erreurs que tous les autres partis ont fait avant nous. À savoir se désunir, se discuter sans doute pour de mauvaises raisons, qui sont des raisons de personne. Nous, on va travailler sur le fond et puis il y aura un choix qui interviendra. Et une fois que le choix sera intervenu, chacun soutiendra le candidat ou la candidate qui sera retenue.
Celui qui tranchera au bout du compte au mois de juin sera sans aucun doute Emmanuel Macron, car la bataille de Paris au municipal est pour lui cruciale en vue, 2 ans plus tard, de son éventuelle réélection.
Emmanuel Macron qui, pour le moment, continue son grand débat national. Il était hier dans le Maine-et-Loire auprès d'enfants à qui il a notamment expliqué que les casseurs sont les gilets jaunes qu'il n'aime pas, assurant avoir compris le message de ceux qui ne sont pas violents. Ce midi, le chef de l'État reçoit des élus des Hauts-de-France, un déjeuner boycotté par certains au Rassemblement national, à la France insoumise, au Parti socialiste ou encore au sein du Parti Les Républicains. Le président de la région, Xavier Bertrand, lui, sera bien présent. Le Conseil d'État se penche ce matin sur l'affaire Vincent Lambert, du nom cet homme de 42 ans, tétraplégique et en état végétatif depuis 10 ans maintenant. L'arrêt des soins avait été décidé pour la 4e fois par le CHU de Reims, puis validé fin janvier par le tribunal administratif. Mais les parents de Vincent Lambert s'y opposent. Une affaire juridique et familiale que nous rappelle Thomas Larabi.
C'est l'histoire d'un éternel recommencement. Tout débute en 2013, 5 ans après l'accident de la route de Vincent Lambert. Les médecins du CHU de Reims décident d'arrêter petit à petit, de le nourrir et de l'hydrater. Ils informent l'épouse de la procédure, mais pas les parents. 17 jours plus tard, une des sœurs de Vincent Lambert lui rend visite à l'hôpital. Elle voit son frère amaigri, se rend compte de l'arrêt des soins et appelle ses parents qui entrent dans une colère noire et s'y opposent. C'est à ce moment-là que la famille explose. D'un côté, les parents et 2 frères et sœurs les plus proches de Vincent. De l'autre, son épouse Rachel, son neveu et les 6 autres membres de la fratrie qui souhaitent un arrêt des soins. 10 décisions judiciaires sont rendues en l'espace de 5 ans. Le Conseil d'État en 2014, la Cour européenne des droits de l'homme 1 an plus tard qui valide l'arrêt des soins. Mais les parents de Vincent Lambert ne baissent pas les bras et entre-temps les médecins ont changé et la boucle repart. Une nouvelle équipe médicale arrête à nouveau les soins puis renonce devant la rumeur d'un enlèvement de Vincent Lambert par sa famille qui enfle. L'an dernier, une 3e équipe de médecins prend la même décision, l'arrêt de l'hydratation et de l'alimentation de Vincent Lambert, une décision confirmée par le tribunal administratif. C'est ce que le Conseil d'État doit trancher à nouveau aujourd'hui. Ce sera, toutes les parties l'espèrent, la dernière ligne d'un procès sans fin.
Le directeur général de BFM Business démissionne pour, dit-il, protéger le groupe Altice qui possède la chaîne. Il est en fait visé par une enquête préliminaire quand il était en poste au journal Libération, propriété également du groupe Altice. La justice s'interroge sur le montage financier utilisé par le quotidien Libération pour organiser un forum au Gabon, à Libreville. C'était en 2015, une enquête préliminaire est donc ouverte. Réparons l'église. C'est par ces mots que les journaux La Croix et Pèlerin lancent une consultation pour répondre à la crise que traverse l'église, le difficile aveu des actes pédophiles, les rares sanctions au sein de l'église. Ces derniers mois, ces dernières années, les témoignages de personnes qui ont choisi de se faire débaptiser sont de plus en plus nombreux sous le mot-clé apostasie. Audrey Dumain a rencontré l'une de ces personnes à Paris.
À 32 ans, Hélène se dit écœurée par l'église. Elle a été baptisée 1 mois après sa naissance, a grandi dans une famille catholique, mais aujourd'hui...
Je ne veux plus du tout compter dans leur registre, en fait. Ne plus être assimilée à cette religion qui fonctionne comme une secte.
Petite, elle était pourtant très croyante, allait à la messe tous les dimanches, prier le soir.
L'un des messages que je retiens, moi, et que je trouve très beau, justement, du Nouveau Testament, c'est le Christ qui dit « Ne jugez pas, vous ne serez pas jugés, ne condamnez pas, vous ne serez pas condamnés. » Et puis, les valeurs de vérité. Et là, pour le coup, on se sent effectivement extrêmement trahi que l'Église est dans un déni de réalité et dans une omerta incroyable, en fait. Les prêtres pédophiles, on les bouge d'une paroisse à l'autre. L'homosexualité, on la vit la nuit, mais le jour, on se bat contre elle. Tout ce que finalement je déteste en fait.
Les scandales de ces derniers mois ont fini de la convaincre. La lettre qui lui permettra de ne plus compter parmi les baptisés est prête à l'envoi.
La religion telle qu'elle est vécue par bien trop de prélats et de fidèles à la lettre, bien loin de l'esprit de tolérance et d'ouverture à l'autre que prônait Jésus, m'a séparée de ma mère. Aujourd'hui, on découvre qu'au Vatican fourmillent des hommes de bien peu de foi et de bien grande hypocrisie.
Chaque mot a été aujourd'hui réfléchi, il faut dire que le choix n'a pas été facile.
J'écris cette lettre contre l'institution et pas contre la foi et la spiritualité. Ça a été difficile parce que j'ai eu l'impression de trahir un héritage familial. Et en même temps, c'est un héritage qui me pèse tellement et qui est en fait tellement toxique dans l'épanouissement personnel qu'il fallait que je le fasse.
Tellement pesant qu'elle a attendu 27 ans avant d'assumer son homosexualité. Réformer l'Église, Hélène a du mal à y croire. Il faudrait commencer par revoir son rapport aux femmes, à la sexualité, mais surtout à la vérité, conclut-elle.
Le temps sur l'Hexagone s'annonce toujours beau ce vendredi. Après quelques bancs de brouillard matinaux sur le nord et sur les Pyrénées, le week-end s'annonce tout autant ensoleillé. Ce matin, Météo France prévoit déjà 11 degrés à Strasbourg et Nantes, 12 en région parisienne à Bordeaux et Lyon, 15 à 16 degrés près de la Méditerranée. Il est très exactement 6h40.
Bravo.
Sur France Culture. Bonjour Jacques Mounier.
Bonjour Clara Le Coq-Réal.
Vous nous avez rejoint pour votre journal des idées. Disparu le 4 mars dernier, Jean Starobinski était critique littéraire, historien des idées, spécialiste du XVIIIe siècle. La revue Europe lui rend hommage, Jacques.
Oui, Jean Starobinski est l'auteur d'un... On va le citer celui-là, parce qu'il est, c'est le plus connu. Un ouvrage de référence, Jean-Jacques Rousseau, La transparence et l'obstacle, qui illustre d'ailleurs l'approche thématique en matière de critique à laquelle on a associé son nom. Mais comme le souligne Martin Rueff dans cette livraison printanière de la revue Europe, c'est simplifier une position que lui-même n'aura eu de cesse de préciser. La relation critique et l'ouvrage qui lui fait suite, Les approches du sens, rassemblent des textes témoignant aussi de son intérêt pour le grand débat des années 60 et 70 sur la critique, la théorie littéraire et l'implication des sciences humaines, philosophie, sociologie, psychanalyse, linguistique, dans l'interprétation des œuvres. Il y éclaire la ductilité de son approche, toujours sensible à la particularité des textes et des auteurs. Un travail s'accomplit en moi, écrit-il, par le déroulement du langage perçu dans l'œuvre. J'en possède la certitude immédiate, mon émotion, mes représentations en marquent un premier profil. Toute description ultérieure, toute interprétation, doivent garder la mémoire de ce fait premier pour lui apporter, si possible, une clarté supplémentaire. C'est cet art conjugué de l'empathie et de la distance qui définit le mieux son approche critique. Par ailleurs, Jean Starobinski a adopté la distinction désormais classique proposée par Albert Thibaudet entre la critique spontanée, celle des lecteurs et du public cultivé qui s'exprime notamment dans la conversation, la critique professionnelle des professeurs et des journalistes, et la critique des artistes, celle des écrivains quand ils se lisent entre eux, soulignant le ton de conversation allègre et corset qui lui était propre. Il rappelle que Thibaudet est le premier à avoir également démontré la possibilité d'une critique de la critique. Sa description à la fois narquoise et tolérante des divers partis pris critiques, ajoute-t-il, le conduisait à signaler partout les défauts ou les limites. Il était prêt à accepter toutes les écoles, si dénuées d'autorité qu'elles fussent, parce que dans leur ensemble, elles lui paraissaient complémentaires. C'est pourquoi il est arrivé à Jean Starobinski de porter des jugements ironiques sur certaines controverses auto-entretenues et qui finissent par tourner à vide. « Tant de disputes récentes sur la méthode, disait-il, m'ont paru ressembler à des querelles sur l'art de dresser le couvert, les assiettes demeurant désespérément vides. » De l'approche psychanalytique, il rappelle qu'elle a d'abord été une incursion dans la littérature à la recherche de ses propres clés, tout comme dans d'autres domaines de la culture, les mythes, les œuvres d'art ou les religions. Et il note avec Benveniste que les ruses du désir s'apparentent d'une façon frappante aux figures stylistiques et aux tropes de la rhétorique classique, litote, antiphrase, euphémisme, métonymie, ellipse. On sent bien que sa préférence va à la critique artiste. Comme l'indique Martin Rueff, il écrit en tant que critique, comme certains écrivains critiquent en tant qu'écrivain, Baudelaire, Proust ou Gracq par exemple. Si le critique pratique alors une lecture professionnelle, entendons une lecture consciente de ses opérations et capable de produire quelques règles philologiques et herméneutiques, il n'en reste pas moins vrai qu'il est mu lui aussi par la passion. Europe publie un texte sur Benjamin
Benjamin Constant et l'éloquence. Il y est question des excès oratoires de la Révolution, à une éloquence qui entraîne et qui souvent avait entraîné à l'effusion de sang. Benjamin Constant oppose une éloquence qui retient, écrit Starobinski, qui cite Constant, « Les factions n'ont qu'un style, elles n'appliquent pas les invectives aux noms, elles attachent au hasard des noms à des invectives. Elles pourraient se passer de main en main les accusations qu'elles prodiguent et une seule philippique servirait à tous les partis. » Dans la ligne de mire de Constant, les disciples de Rousseau et de la volonté générale qui ont accordé à la souveraineté du peuple un pouvoir sans bornes, alors qu'ils ont vu dans l'histoire un petit nombre d'hommes, ou même un seul, en possession d'un pouvoir immense qui faisait beaucoup de mal, écrit Constant, leur courroux s'est dirigé contre les possesseurs du pouvoir et non contre le pouvoir même. C'était un fléau, ils l'ont considéré comme une conquête. Ils en ont doté la société tout entière, il a passé forcément d'elle à la majorité, de la majorité entre les mains de quelques hommes, souvent dans une seule main, et il a fait tout autant de mal qu'auparavant. Italo Calvino, que Starobinski a si bien commenté, écrivait ceci, c'est dans « Pourquoi lire les classiques ?» Est classique ce qui tente à reléguer l'actualité au rang de rumeur de fond, sans pour autant éteindre cette rumeur. Mais aussi est classique ce qui persiste comme rumeur de fond, la même où l'actualité la plus éloignée règne en maître. Voilà pourquoi Jean Starobinski est un classique. Vous écoutez France Culture, il est 6h45. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier, bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux, aujourd'hui la Nouvelle-Zélande, 2 semaines après l'attentat.
Oui, puisqu'il y a quelques heures, c'était la grande cérémonie d'hommage aux victimes de l'attentat anti-musulman de Christchurch, qui a tué 50 personnes. Elle se tenait dans un parc derrière la mosquée Al-Noor, donc nouvelle démonstration d'unité de la classe politique nationale et régionale, cette fois avec 59 chefs d'État, du traumatisme donc à la renaissance nationale. Démonstration d'une certaine maturité, voire peut-être d'une nouvelle réalité politique, pour emprunter le titre d'un article local. On voit ça avec vous, Fiona Barker, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être au téléphone en direct depuis Wellington. Vous y êtes professeur de sciences politiques à l'université Victoria. Alors, juste pour dresser le calendrier des deux dernières semaines, c'était 20 000 personnes lors du rassemblement vendredi dernier, des milliers encore hier. Les mêmes mots de la première ministre Jacinda Ardern qu'il y a 10 jours devant le Parlement de Wellington, c'est-à-dire Assalam alaikum, que la paix soit sur vous. Elle l'avait dit, hein, nous sommes une nation fière d'avoir plus de 200 origines ethniques et 160 langues. Nous partageons des valeurs communes à travers cette diversité. Ça veut dire qu'on est là à la fin d'un cycle, vous diriez, de reconstruction nationale ?
Oui, aujourd'hui c'était un moment de prendre un peu de recul après, avec des deux dernières semaines, de mettre parfum et de mettre un terme un peu la période de deuil. C'était aussi une chance pour la grande tribu de l'île du Sud, Ngāi Tahu, la grande tribu maori, d'accueillir tous les visiteurs, de montrer eux aussi leur solidarité avec les victimes. Et on a vu ça beaucoup dans la cérémonie, leur présence. Et aussi laisser à quelques victimes qui ont eu le mot aussi, Farid Ahmed, quelqu'un qui a été blessé dans les attaques. Il a parlé de sa volonté de pardonner le tueur. Pour Jacinda Ardern aussi, c'était une chance de reparler au peuple. Et elle a bien, comme la dernière semaine, elle a parlé de s'occuper plus des victimes. Elle n'a pas parlé du tueur. Mais aussi, elle a reconnu cette fois-ci un peu plus le fait qu'il existe du racisme, hein, il existe de la discrimination en Nouvelle-Zélande, et qu'on a tous une responsabilité à gérer ça, à contrer ça dans la vie de tous les jours.
Oui, elle a dit « nous ne pouvons pas y faire face seul », on va y revenir. Mais alors, justement, comment est-ce que vous estimez, vous, l'ampleur de la fissure, on pourrait dire, sociale ou politique? En gros, quelle réalité il y a à ce suprémacisme blanc à Christchurch, donc dans l'île du Sud, troisième ville du pays, pas forcément la plus connue?
C'est... il est difficile de décrire un peu le choc, l'ampleur du choc social de cette attaque, parce que c'est juste après, tout le monde a dit comment ça a pu arriver en Nouvelle-Zélande, un pays, société pacifique, loin des horreurs du monde global. C'est avec un peu de recul, on commence à parler du fait qu'il y a du racisme.
Oui, parce qu'il y avait déjà des activistes.
C'est vrai, à Christchurch, il y a un passé un peu des suprémacistes blancs. Mais personne n'aurait pensé que ça va jusqu'à faire une attaque comme ça. Donc, il y a eu des problèmes sociaux, mais personne n'aurait pensé qu'on verrait une attaque comme ça.
Et alors, justement, la première ministre Jacinda Ardern a donc décidé une enquête, hein, quand même, sur la manière dont les services de sécurité n'ont pas vu arriver cette affaire. Elle a dit, on va retourner la moindre pierre. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des doutes sur ou bien leur efficacité, ou bien, comme ça a été le cas dans une émission, une certaine complaisance de certains services envers l'extrême droite? Là c'est beaucoup dire, non?
Oui, donc 10 jours après lundi dernier, elle a annoncé une commission royale. Donc en Nouvelle-Zélande, ça c'est une enquête la plus grande, la plus importante, une commission royale pour enquêter les origines de l'attentat. Et comme vous dites, c'est si les services de renseignement avaient investi assez de ressources dans le problème, assez de temps dans le problème de l'extrême droite, des suprémacistes blancs. Il y a eu des commentaires de la part de la communauté musulmane en disant qu'ils avaient bien prévenu, ils avaient essayé de prévenir les services de renseignement et la police dans le passé du problème des suprémacistes blancs, mais qui n'ont pas eu beaucoup de retours. Et qu'eux, ils étaient ciblés par les services de renseignement parce qu'ils étaient la communauté musulmane. Donc, c'est vrai que dans cette commission royale, il y aura des questions à propos de possible complaisance envers l'extrême droite et si les services de renseignement ont trop ciblé la communauté musulmane.
Oui, à suivre pour cette commission d'enquête. Pour la première ministre elle-même, par contre, c'est vrai qu'elle arrive en pleine lumière, on pourrait dire, sur la scène internationale. Elle s'était déjà fait connaître à l'ONU parce qu'elle était venue avec son nouveau-né à la fin de l'année dernière. Mais cette fois-ci, il y a certains journaux qui ont dit qu'elle a fait un genre de sans-faute, hein, en portant le hijab, avec les embrassades, les discours, disons, tout à fait percutants. Que ses adversaires ou son adversaire Bill English à l'époque, surnommé Stardust, poussière d'étoiles. En fait, elle a une vraie maîtrise politique là, dans cette affaire. Comment est-ce qu'elle est perçue?
Tout le monde est uni derrière elle pour l'instant. Il y a une grande appréciation généralisée pour sa réponse calme, digne à cette tragédie. Et aussi sa compassion, son inclusivité. Et aussi de sa volonté de s'occuper des victimes en premier lieu et ne pas de parler de l'auteur de cette fusillade. Et je crois qu'il y a aussi une appréciation pour sa prise de décision rapide, en annonçant l'intention d'un durcissement des lois pour interdire les armes semi-automatiques, par exemple.
Oui, ça s'est fait très vite, effectivement.
Aussi, la commission royale, donc, elle était rapide et ferme dans ses décisions, mais avec beaucoup de compassion. Et dans le passé, il y avait des opposants qui avaient dit que peut-être elle n'avait pas le leadership, la prise de décision ferme, mais là, elle a montré et sa compassion et son leadership.
Oui, oui. Elle est effectivement qu'on a aussi pu surnommer mère de la nation, hein, dans certains articles, et qui était l'objet à l'époque de la campagne, déjà en 2017, d'une certaine Jacinda Mania. C'est ce leadership-là qu'elle retrouve ou qu'elle affirme de nouveau. Et effectivement, on donnait pas cher des travaillistes à l'époque en 2017, et elle a réussi à hausser ce parti comme premier d'une coalition qui dirige la nation désormais.
Voilà, c'était surprenant qu'elle devienne chef du parti déjà, et puis un mois après, chef du gouvernement. Donc elle est devenue chef du parti à peine un mois avant les élections de 2017. De façon très surprenante pour tout le monde. Donc, c'est aussi là où il y avait des commentaires des opposants qu'elle n'avait pas assez d'expérience pour gérer un gouvernement. Et je crois que là, personne fait cette commentaire maintenant.
Oui. Et alors, dernière chose concernant cette nouvelle réalité politique. Là, c'était le titre d'un article qui parle de la prochaine visite que Jacinda Ardern va effectuer en Chine. Cette fois, c'était une visite qui était prévue, qui a été reportée. Là, elle s'est presque excusée de devoir y aller dans ces circonstances, mais une visite importante pour renouer avec la Chine. Et si je comprends bien le sens de l'article qui est écrit en anglais, c'est aussi un moyen d'affirmer pour elle, disons, une certaine puissance face aux autres partis, cette idée de renouer avec la Chine alors qu'il y avait eu un vrai froid ces derniers mois.
Il y a eu un froid. Je crois que parfois les médias l'ont joué un peu plus que ce n'était, mais c'est vrai que le but du voyage qui était prévu depuis un moment... et d'établir la relation entre elle et le premier chinois Xi Jinping. Donc ce sera sa première visite officielle en Chine depuis qu'elle est devenue première ministre. Aussi pour renforcer de l'accord de libre-échange entre les deux pays. En ce moment, il y a une renégociation de cet accord de libre-échange, mais bien sûr, comme vous dites, d'affirmer l'importance de la relation entre la Chine et la Nouvelle-Zélande. Vu qu'il y a eu des petits soucis et des défis, comme avec tous les pays en fait dans la région, par exemple le refus pour l'instant d'accepter l'utilisation de la technologie de Huawei dans le nouveau réseau 5G, et aussi la nouvelle politique de ce nouveau gouvernement envers le Pacifique, donc qui s'appelle le Pacific Reset.
Oui.
Ils ont dévoilé une nouvelle politique pour renforcer la présence de la Nouvelle-Zélande dans la région du Pacifique.
C'est ça, c'est ce qu'elle avait annoncé en mars 2018. Bah, ce sera à suivre et voir s'il faut choisir effectivement entre ce Pacific Reset, la Chine, et puis les Five Eyes, ce réseau de renseignement dont la Nouvelle-Zélande fait partie. Mais merci beaucoup pour vos explications ce matin, Fiona Barker, professeure donc de sciences politiques à l'Université Victoria de Wellington. Merci et bonne soirée en Nouvelle-Zélande.
Merci à vous.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Réagir, témoigner, hashtag sur France Culture. Éric Chavroux.
Hashtag, quand le témoignage prend la parole. Toutes les semaines, nous vous appelons à réagir sur les réseaux sociaux à propos d'un sujet de société. Témoigner et compléter les paroles de ceux que nous avons interviewés. Hashtag, c'est dès le lundi sur les réseaux sociaux et le vendredi à 7h24 dans les matins et sur franceculture.fr.
Chaque samedi sur France Culture à 9h05, réplique, Alain Finkielkraut.
Pourquoi réplique? Parce que, selon les mots de Fontenelle, on s'accoutume trop dans la solitude à ne penser que comme soi. Deux invités chaque semaine nous aident à sortir de nous-mêmes et à déchiffrer le présent.
L'Europe, cette semaine en question. De quoi est-elle aujourd'hui menacée? En quelle Europe pouvons-nous croire? Qu'est-ce qu'être européen aujourd'hui? Avec les philosophes Rémi Brague et Jean-Claude Milner, réplique ce samedi à 9h05 et sur franceculture.fr.
Et à 6h57 sur France Culture, l'heure des matins avec Guillaume Herner.
Mais bonjour, oui, bonjour Guillaume. Xavier Martinet, bonjour à toutes et à tous.
Et pour continuer avec les bonnes nouvelles, les Français aspirent à une dictature.
Oui, alors enfin, c'est ce que semble dire un sondage Odoxa, effectué pour la sortie d'un livre, alors apparemment un livre de politique fiction où il est question de militaires prenant le pouvoir. Heureusement que le livre ne prévoyait pas des bébés découpés en tranches parce que vous imaginez le sondage. Alors, donc pour se lancer ce livre, ils se sont dit bah on va tester l'hypothèse en posant par exemple 8 questions sur un pouvoir militaire consécutif à un attentat. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette idée de donner le pouvoir à un militaire est la 8e question du sondage, qui arrive donc lorsque l'échantillon a été bien préparé par toute une série de questions, toutes plus anxiogènes les unes que les autres. Je vais vous donner un exemple, par exemple, la 2e question du sondage. Face au risque terroriste, certains estiment, dit le sondage, qu'il faut voter de nouvelles mesures d'exception pour mieux assurer la sécurité des Français, quitte à limiter leur liberté. y êtes-vous favorable ? Et face à une interrogation aussi angoissante, finalement, les individus répondent de manière plutôt mesurée, 45% non, 55% oui, veulent donc qu'on limite leur liberté pour promouvoir de nouvelles mesures d'exception. C'est un peu comme si je vous disais, Xavier, accepteriez-vous, pour sauver la vie d'un enfant innocent, que l'on limite temporairement vos libertés? On vous pose la question dans un sondage, vous avez envie de vous débarrasser du sondage, ça vous ennuie, vous répondez oui machinalement. Et finalement, on aboutit à l'apothéose, c'est la question 8. Si la France était confrontée à de nouveaux attentats terroristes, seriez-vous favorable à ce que l'on nomme temporairement un militaire à la tête du pays? Alors là, tous les mots comptent, avec là aussi des réponses très partagées, 50% oui, 49% non, alors que la question peut avoir la palme des questions obscures. Car enfin, dans cette question, il y a le très étrange « on nomme », qui nomme, on ne sait pas, qui nomme le chef de l'État, et surtout le « temporairement », alors temporairement combien de temps? Et voilà comment on en arrive à poser des questions, une question qui ne se posera jamais, autrement dit à instiller dans l'opinion l'idée selon laquelle les Français aspirent finalement à des solutions fascistoïdes, un peu comme si l'on créait un sondage performatif non plus pour mesurer l'opinion, mais aussi pour la préparer.